Le débat.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de votre émission, le débat consacré aujourd'hui à l'avant-projet du nouveau code du travail avec nos invités aujourd'hui, M. Ahmed Merchichi du ministère du Travail et M. Amar Tagjout de l'UGTA. Donc nous avons, durant la première partie, parlé justement des nouvelles propositions ou des nouvelles dispositions de ce code du travail, M. Merchichi. Nous avons évoqué justement ce volet des contrats du travail. Il y a d'autres thèmes qui...
Il y a d'autres nouveautés dans l'avant-projet du code du travail, mais je tiens quand même à apporter une précision que le CDD, ce n'est pas la règle, c'est l'exception. Le contrat à durée indéterminée reste toujours la règle dans le cadre des relations de travail. S'agissant maintenant d'autres nouveautés qui ont été introduites dans le nouveau code, dans le projet du code du travail, il y a tout un chapitre relatif au travail illégal. Travail illégal et l'institution ou l'institution de mécanismes qui permettent la lutte contre le travail illégal. Lutter contre l'informel. Ceci dit, cet aspect mérite qu'il soit un peu mis au devant, à savoir que la lutte contre le travail illégal permet aussi aux travailleurs d'avoir les mêmes droits que le travailleur qui est dans le secteur formel, qu'il soit du secteur privé ou dans le secteur public, dans le sens où la législation s'applique à l'ensemble des secteurs économiques, qu'ils soient économiques privés ou économiques publics. Il y a d'autres nouveautés qui sont introduites au niveau de cet avant-projet du Code du travail, c'est l'institutionnalisation du dialogue social. Cette institutionnalisation a été toujours, il est là M. Tagjour pour peut-être le confirmer, l'une des des mesures ou de recommandations des différentes rencontres tripartites, c'est-à-dire institutionnaliser le dialogue social dans la législation du travail. La proposition c'est l'institutionnalisation du dialogue social sous la forme de bipartite et tripartite, ainsi que d'autres missions qui lui sont confiées. Hein. C'est-à-dire la forme bipartite ou la forme tripartite. La forme négociation, elle existe déjà, elle est incontournable. C'est le mécanisme qui permet la normalisation, l'encadrement des relations de travail au sein des entreprises. Il y a d'autres nouveautés. L'interdiction du harcèlement sur les lieux du travail. Ça, c'est une nouveauté qui est intervenue dans le nouveau code du travail. Brièvement.
On va revenir justement sur les nouveautés, M. Merchichi. M. Tagjout, nous savons qu'il existe un vide juridique par rapport à la gestion des relations de travail. Il y a des nouveautés que propose justement ce nouveau code. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant aujourd'hui? Quels sont justement, comment aujourd'hui arriver à améliorer, je dirais, le travail ou le milieu de travail? Vous avez, M. Merchichi a parlé d'harcèlement, l'interdiction de l'harcèlement. C'est quelque chose qui a toujours été interdit, qui a toujours été dénoncé. Mais concrètement, sur le terrain, comment réellement améliorer les conditions de travail?
Je ne pense pas que ça soit suffisant, même si on confectionne le meilleur code du travail pour préserver le travailleur féminin ou masculin. C'est pas le code lui-même qui est en cause, c'est son application, c'est c'est l'insuffisance de l'arbitrage qui pose problème. Et souvent, que ce soit administrativement ou juridiquement, il y a des problèmes. Je reprends un petit peu l'insuffisance d'intervention. Peut-être c'est revoir les prérogatives de l'inspection de travail qui fait défaut. Souvent, entre l'employeur et le salarié, et l'employé, il n'y a qu'un PV de conciliation, de non-conciliation. Ça veut dire qu'il n'y a pas une prise de position légale. Est-ce que la meilleure, c'est qui doit faire la lecture de la loi? Ce n'est pas l'employeur ou l'employé, mais c'est l'inspection du travail en premier lieu. Elle qualifie la faute ou elle fait. Et souvent, ça n'existe pas ou ça n'a pas existé depuis quelques, enfin, des années maintenant. Je ne sais pas si dû au fonctionnement aussi. Je ne jette pas les personnes. Il y a de la qualité, il y a des personnes de compétences, mais est-ce que l'environnement leur a permis d'intervenir et de faire le travail ou pas? Les juridictions aussi, c'est la même chose. Maintenant, je suis frappé un petit peu quand. C'est bien l'article pour le harcèlement, notamment, c'est quelque chose de bien, ça évolue, mais ça reste insuffisant. Et c'est contradictoire, parce que vous savez que le contrat à durée déterminée est un moyen du harcèlement. Moi, j'ai vécu ça dans les secteurs d'activité. C'est terrible comme situation. Et on ne peut pas défendre les salariés dans ces situations. Mmh. Il suffit d'une question d'incompatibilité et vous perdez votre contrat. Et le harcèlement, il est nourri par ce contrat à durée déterminée. Et j'ai vu un employeur licencier une dizaine de salariés pour avoir eu le sentiment de s'organiser en syndicat. Du coup, vous voyez un petit peu qu'il y a des articles qui interviennent ou qui arrivent pour essayer d'aider ou d'éviter un petit peu le harcèlement. Et d'un autre côté, vous donnez une arme très redoutable. Pour utiliser cette arme, c'est terrible, parce que nous avons tous des enfants, nous avons tous et nous avons une expérience. Cette expérience, elle est douloureuse, elle n'est pas bonne. N'est pas bonne, ni pour nous syndicalistes vulnérables devant ces situations, ni pour les employeurs qui utilisent ce genre de choses, et encore moins l'arbitrage qui devait intervenir de l'administration ou de la justice. Donc il y a un problème sérieux dans cette ça ne suffit pas. Le code du travail devait évoluer avec le dialogue social. C'est avec le dialogue social qu'on doit évoluer dans ce code du travail. Malheureusement, je dois le dire, et ça à mon compte personnel, je n'impliquerai pas mon organisation, et souvent on fait des choses très administrativement sans tenir compte un petit peu de l'évolution économique, sociale et autres. Hein, vous voyez, la loi, le dialogue social. Il émane de la volonté des trois parties. Ça n'émane pas d'une administration quelconque. Ce n'est pas des experts qui doivent faire un travail de code du travail comme ça pour le plaisir de le faire. Vous faites une loi de finances, vous la faites pour votre économie. Vous ne la faites pas par des experts en financier ou en économie pour faire une loi de finances très cadrée, très calquée, qui ne rime à rien, qui n'apporte pas grand-chose, parce qu'on on dépense énormément d'argent sans résultat. Donc, le contrat. Et moi, je vais aussi clarifier une chose, parce que ceux qui nous écoutent, peut-être, ils vont dire que souvent, les gens cherchent à la fainéantisme, l'insuffisance professionnelle, la médiocrité, on la cache par le CDI, parce qu'on aime bien le CDI, parce que le CDD, c'est la compétence. C'est rien du tout, non, la compétence. C'est vrai que le CDD peut être très bien pour des gens qui ont un niveau, qui ont des projets, qui ont un travail et qui ont un objectif et un résultat à discuter. Je ne dis pas que ce n'est pas une mauvaise, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais pour le salarié vulnérable, le petit salarié du coin, etc., qui on exploite et le jour où il demande un droit, et à ce moment-là on lui signifie que son contrat n'est pas renouvelable, ce n'est pas très, très, très intéressant.
Donc, est-ce qu'il faut justement utiliser ces contrats dans certains secteurs, dans certaines conditions, donc limiter l'utilisation des CDD?
Moi, je suis partisan d'une autre démarche. Mm-hmm. Il faut remettre au travail nos institutions.
Très bien, on va revenir justement aux propositions de l'UGPA.
Il faut remettre au travail nos institutions, il faut que les lois s'appliquent. Malheureusement, les lois ne s'appliquent pas. Nous avons des très bonnes lois, mais ils ne s'appliquent pas. Mmh. On est devenus tous hors-la-loi. On devait militer pour changer les lois. On devait s'engager dans le militantisme pour changer les lois et non être hors-la-loi. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, le constat qui est malheureux aujourd'hui, on est devenus tous hors-la-loi. Et ça, c'est pas bon pour un pays qui aspire à jouer un rôle au niveau national, régional et international.
Donc, monsieur Melchichi, on parle de nouveautés. Donc, on a parlé des codes, enfin des contrats de travail. Vous avez parlé du travail informel, illégal, le harcèlement dans les milieux de travail. Il y a aussi la réglementation ou l'interdiction du travail des enfants ou voilà, donc mettre des règles pour que les enfants puissent accéder à des postes de travail.
Effectivement, l'avant-projet du Code du travail a prévu ou a introduit des dispositions sur l'interdiction du travail des enfants et le travail forcé. Ces dispositions sont en adéquation avec les conventions internationales qu'a signées donc à notre pays et appelé à mettre sa législation dans le cadre du travail des enfants aux conventions internationales. Donc c'est la nouveauté et l'interdiction. Et elle a fixé des dispositions par rapport à l'âge 16 ans, 18 ans et moins. Mm-hmm. C'est-à-dire elle a fixé des normes, elle a normalisé le travail des enfants.
Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. On va s'arrêter pour quelques instants, pour le rappel des titres et on revient juste après.
Le match Algérie-Mali pour le compte de la deuxième journée des qualifications de la CAF 2015, c'est ce soir à 20h30 à Blida. La rencontre se déroulera sous très haute surveillance. Le rôle de la femme arabe dans la cohésion sociale et le renforcement du tissu familial est mis en avant dans une conférence à Alger. La nouvelle loi sur les investissements est finalisée. Elle a été remodelée à 80%, a fait savoir depuis la wilaya de Boumerdès le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb. L'épidémie d'Ebola menace l'existence même du Libéria. C'est la mise en garde qui a fait l'effet d'une bombe. Le ministre de la Défense du Libéria a tiré la sonnette d'alarme devant le Conseil de sécurité de l'ONU.
Donc, on parlait à l'instant avec M. Melchichi, on est revenu sur aussi une nouveauté, une nouvelle loi par rapport au travail des enfants. Monsieur Takjout, aujourd'hui, il est impératif justement de revoir ce point. Nous avons vu le travail des enfants aujourd'hui est devenu pratiquement une tradition pour protéger ces enfants. Aujourd'hui, il est important de mettre en place des lois, mais surtout les appliquer.
Je pense, y compris la proposition faite dans ce projet de code du travail, et à mes yeux reste insuffisant. Pourquoi ? Parce que quand vous parlez de travail pénible, travail forcé, ça veut dire il faut le qualifier. Parce que c'est quoi le travail pénible pour un enfant ? C'est quoi le travail forcé pour un enfant ? Est-ce que travailler dans un champ est pénible ou pas pénible ? Est-ce que travailler dans l'artisanat est pénible ou pas pénible ? Est-ce que rester 8 heures assis et ne pas, est pénible ou pas pénible ? Je ne sais pas. La question de la pénibilité et le travail forcé, comment le qualifier ? Et ça, c'est un petit peu vague et c'est un fourre-tout en quelque sorte. Et ça, c'est un débat qu'au niveau international n'est pas terminé encore, y compris dans les groupes de travail à l'OIT, ça arrive, ça revient. Moi, j'ai participé à ces rencontres. Souvent, c'est très difficile à qualifier. Deuxième élément, c'est que quand vous dites le travail de l'enfant, nous, on reste sur l'idée principale que l'enfant, jusqu'à 16 ans, il faut qu'il aille à l'école. Donc, au-delà, c'est très dangereux d'utiliser ces ouvertures qui risquent d'aller vers l'exploitation en se disant qu'on a fait un mécanisme juridique pour préserver, mais en réalité, on ouvre une porte pour beaucoup plus exploiter les enfants. Et j'ai vu dans l'article aussi de mémoire. Dans le milieu artistique. Par exemple, on ouvre la porte aussi aux enfants dans les milieux artistiques, aux enfants où c'est le contrat est signé, c'est le wali, c'est là, c'est les parents,
le
c'est
tuteur.
Tout, etc. Mmh. Le tuteur, etc. Donc, il y a aussi cette ouverture. Mais ce qui m'a frappé dans cet article, les mots ont toujours un sens, c'est quand on dit « et autre » dans l'article. Telle activité et autre. Quand on dit et autre, ça veut dire qu'on peut interpréter et aller. Donc, est-ce que le milieu du cinéma est toléré? Les spots publicitaires, c'est toléré. Ça, c'est pour les enfants. Le théâtre peut être toléré. Mais quand vous dites et autre, ça veut dire que vous qualifiez un certain nombre d'activités et, vous,
mm-hmm.
et
le texte, ouvert.
Ça reste ouvert. Et est-ce que maintenant, faire du tapis, c'est artistique ou pas artistique? C'est une question que je me pose. Mm-hmm. Est-ce que les enfants auront peut-être un
donc
jour...
Donc, en d'autres termes, ce tape juste, ce qui manque à ce nouveau code, c'est un petit peu les précisions.
Écoutez, beaucoup de précisions.
Ne pas rester dans la nuance.
Il faut élaguer quelques articles qui n'ont pas de sens. Il faut que les articles correspondent à une réalité économique et sociale. Non, ce n'est pas le plaisir de faire un code. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je fais un code du travail. Moi, je suis partisan du code du travail pour notre économie, pour notre pays. Mais pour faire un code et de dire que nous avons une main-d'œuvre à bon marché pour intéresser les IDE, ce n'est pas très intelligent de le faire. Ce n'est pas par le biais de la main-d'œuvre qu'on doit inciter les investisseurs étrangers à venir. Et souvent, les étrangers, ils nous le disent, ils l'ont dit. Moi, je l'ai vécu à la Chambre de commerce en Allemagne. Leur souci, ce n'est pas le code du travail algérien, leur souci, ce n'est pas la main-d'œuvre qui reste à bon marché parce que les salaires algériens sont inférieurs aux Marocains et aux Tunisiens. La rive méditerranéenne, nous sommes les derniers. Donc, ce n'est pas cette main-d'œuvre qui pose problème, c'est la bureaucratie qui pose, c'est le climat des affaires, c'est toutes les questions juridiques, administratives qui posent problème aujourd'hui. Et depuis le temps qu'on en parle pour essayer d'assainir cette situation, malheureusement, on n'arrive pas. Donc, la question, c'est faire une déviation vers le code du travail et inciter les investisseurs à venir. Parce que nous sommes plus exploitables et plus vulnérables, et plus bêtes, ce n'est pas une bonne chose. Je le dis comme ça, le syndicaliste, peut-être que les mots choquent souvent, mais c'est dans notre formation.
Monsieur Machichi, justement, oui, allez-y. Donc,
j'allais dire que ces nouveautés, hein, ces dispositions-là renvoient à la réglementation pour mieux clarifier et préciser les dispositions sur le travail des enfants.
Mm-hmm.
Ce n'est déjà, comme je l'ai dit, ce n'est qu'un bon projet et le débat reste toujours
ouvert. Et vous attendez toujours les propositions des partenaires.
On attend toujours les propositions de nos partenaires économiques et sociaux.
Est-ce qu'il y a une date limite justement par rapport à la réception de ces propositions?
La date limite, ça a été dit, c'est le 30 septembre 2014.
Est-ce que vous avez commencé à recevoir des propositions, M. Melchichi?
Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore reçu de propositions de nos partenaires, que ce soit l'UGTA ou les organisations patronales.
Est-ce que c'est normal, M. Takjout, aujourd'hui, donc moins de 15 jours, justement, pour avoir pour proposer quelque chose, justement, pour que ce code du travail, est-ce qu'il faut aujourd'hui, justement, que tout le monde s'y mette autour d'une table, donner ses propositions, donner leur avis pour améliorer, pour ramener du nouveau dans le milieu du travail?
Ce n'est pas simple.
Il ne faut pas
limiter... des questions aussi importantes à des journées de travail. Donc, on est en train de, pour ne pas être dans la position radicale de dire niet, il n'y a rien, on ne peut pas être dans la précipitation. Donc on est en train de réfléchir, il y a des commissions qui travaillent, il y a des propositions, dernièrement des fédérations se sont réunies, donc ils ont remis des propositions, ils ont remis leurs remarques, il y a le constat, les remarques, il y a des commissions aujourd'hui qui travaillent, il est fort possible que ce résultat soit... apporté au ministère du Travail très prochainement, mais le travail il se fait. Mais c'est pas simple comme situation.
C'est un travail de longue haleine qui se prépare.
Travail de longue haleine et comme le projet lui-même il apporte beaucoup de correctifs et c'est pas simple parce que quand vous savez que dans certains pays d'Europe, quand ils se retrouvent autour de questions de la législation, c'est un article ou deux articles et ça nécessite des débats et des discussions. Donc quand vous ramenez un ensemble d'articles,
pour le code 600.
Donc c'est pas très simple. On peut pas faire ça. Moi je trouve que exiger un petit peu des réponses hâtives, etc., qui vont se retourner sur tout le monde, c'est pas une très très bonne
idée. Est-ce que c'est un petit peu notre défaut, je dirais, de faire dans la précipitation, de proposer des choses.
C'est de là que je dis, il faut que ça émane d'une volonté, parce que c'est en travaillant ensemble, en essayant d'évoluer ensemble, et que c'est en accompagnant notre économie qu'on ressente le besoin de changer un article ou deux. Mais là, moi, ça me donne l'impression qu'on vient, on se dit, je pense que ce n'est pas très, très judicieux comme démarche. Mm-hmm. Et elle risque de ne pas régler parce qu'on ne doit pas changer le code à chaque année, se retrouver à discuter, de dire que ce n'est pas le bon ou le mauvais. C'est des codes qui restent, c'est des articles qui restent, ils ont une durée de vie, et s'il faut les faire, il faut les faire sur la réalité économique et sociale de notre pays, ce n'est pas en essayant de précipiter les choses, parce qu'on risque, aujourd'hui on est là, mais demain on part, c'est d'autres viendront pour dire qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, etc.
Mais par rapport au contenu, M. Melchichi, pardon, excusez-moi, c'est des propositions ou c'est des articles qui existent depuis quelques années déjà, c'est-à-dire que tout le monde les connaît.
Il y a des articles, comme je l'ai dit tout au début,
c'est
les lois sociales de 90 amendées en 91 et 96. Mm-hmm. Donc c'est des dispositions qui reflètent des droits et des libertés qui sont consacrés par la Constitution ou par les conventions internationales. Donc ils sont, disons, inchangeables, si vous voulez. Mais pour revenir à la démarche dont vient de citer M. Tadjoud, le projet du Code du travail a été transmis aux partenaires au mois de juillet. La date a été fixée au
30
septembre. Mais
vous pensez que c'est assez suffisant?
C'est assez suffisant, mais ça ne veut pas dire, disons que c'est, ça y est, c'est... les propositions vont émaner un comité ad hoc qui a été installé par le ministère du Travail. Ce comité va s'atteler à étudier, examiner les propositions des deux parties pour sortir avec un code du travail consensuel. C'est la finalité, c'est d'arriver... le temps qu'il va prendre, ça je ne sais pas, personne ne peut répondre. C'est connu, une disposition peut susciter un débat d'une heure, peut-être plus.
Et ce qui intéresse le plus justement le citoyen, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de lui. Je vous donne juste l'exemple de l'article 87 bis qui continue à susciter un débat dans le milieu du travail. Donc beaucoup de nouveautés justement pour améliorer les conditions, M. Tadjoud. Peut-être que ça commence à venir, mais c'est un peu lent, je dirais.
Oui, c'est lent le 87 bis parce qu'on a tendance à... Chacun avait formulé un petit peu son avis sur... sur... Et on a donné l'impression que c'est une augmentation de salaire, on a donné l'impression que c'est un changement de radical de la rémunération des salariés, or que ce n'est pas l'objectif. L'objectif étant cette technique qui était imposée à un moment donné parce que la situation financière et économique était là et elle l'imposait, c'était pas un choix, c'est une imposition. Cette technique devait disparaître pour essayer d'alléger les salaires, ce qu'on appelle la pyramide salariale dans les entreprises, dans l'administration. Et souvent, on avait tendance à faciliter un petit peu ces arguments en disant que c'était une augmentation de salaire. Donc, les gens s'attendaient un petit peu à une augmentation de salaire. Et moi, quand je vois des chiffres annoncés, y compris dans notre organisation, c'est effarant comme situation. C'est des chiffres de 2 milliards de dinars. Or, que l'impact de cet ajustement, je le dis, c'est un ajustement et ce n'est pas une augmentation de salaire, ce n'est pas linéaire, ça ne touchera pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui sera touché. Il y a des entreprises qui ne sont pas touchées, qui ont des rémunérations qui dépassent largement le minimum. Donc, c'est un ajustement dans certaines entreprises. Il y a des entreprises qui pourront supporter cet ajustement. Il y a d'autres qui auront des difficultés à supporter cet ajustement. Moi, je sais qu'au milieu économique, la moyenne est de 15, un peu plus de 15% d'augmentation de masse salariale. L'augmentation, c'est 15%. Ce n'est pas parce qu'il y a dans des entreprises, c'est 8% pour ajuster. Il y a d'autres, c'est 3% pour ajuster. Et d'autres, c'est 20% pour ajuster. Donc, c'est la moyenne de 15, elle est là. Comment traduire tout ça dans les entreprises par rapport à leur capacité? Maintenant, il reste l'administration. Ma foi, moi j'ai toujours dit en deux mots que le problème, ce n'est pas l'ajustement lui-même, ce n'est pas l'impact financier lui-même qui pose problème, c'est qu'on n'arrive pas à créer de la richesse hors hydrocarbures et on n'a pas de plus-value hors hydrocarbures. Donc il faut créer de la richesse pour supporter les salaires. Parce que même si on n'ajuste pas, si on ne touche pas à la 87 bis et on n'augmente pas les salaires, si on continue à tirer de cette rente pétrolière, un jour ou l'autre, on est rappelé à l'ordre et on ne trouvera pas de quoi payer les salariés et les fonctionnaires. Voilà.
Merci beaucoup, M. Tarjout. Merci à vous, M. Ahmed Merchichi. Merci à vous, chers auditeurs. Je vous retrouve mercredi prochain pour un autre thème et un autre sujet. Au revoir.